Petits ou grands, enfants ou géants, petits frères ou grand-mères, voici l'heure des oreilles buissonnières. Bonjour à vous, petites et grandes oreilles buissonnières. Petites ou grandes, chères oreilles, il y a au moins une chose de sûre, vos oreilles vous appartiennent, n'est-ce pas? La nature est bien faite, et un nez pour respirer, sentir, humer, une bouche pour déguster, rire, murmurer, des yeux pour admirer, lire, filmer, et des oreilles pour écouter, palabrer une certaine radio buissonnière, bien sûr. Ainsi donc, d'après nature, vos oreilles bel et bien vous appartiennent. Ouf! Mais pour autant, la nature, à qui appartient-elle? Après avoir répondu à « Qu'est-ce que la nature ?» dans notre dernière émission, Daniel Petit, biogéographe, nous répondra à la question suivante. À qui appartient la nature?
Ben, ça appartient à la Terre, parce que ben, c'est la Terre qui a créé la nature.
Ben, comme la nature, ça appartient à la Terre, et que la Terre, ça appartient à tout le monde, eh ben, la nature, elle appartient à tout le monde.
La nature, elle appartient à la Terre, mais le créateur de la Terre, qui est peut-être Dieu, eh ben, il a créé la nature et la Terre.
Ben, c'est comme Yannis, ça appartient à Dieu.
Peut-être que c'est Dieu qui l'a créé, mais on n'est pas encore sûr, on n'a aucune preuve.
Ben, ça appartient à personne parce que personne n'a créé la nature.
La nature appartient à personne parce que la Terre a existé avec une étoile. Enfin, une étoile a explosé, puis un bout d'une étoile, on a appelé le noyau interne.
Des fois, là, il y en a qui ont des champs et ils plantent des choses dans le champ.
Des fois, il y a des forêts où il y a des gens qui achètent un petit bout de la forêt pour mettre, par exemple, leurs vaches ou leur cochon.
Ben si, tu peux être propriétaire d'un petit partie d'une forêt parce que ben des fois il y a des gens ils coupent des sapins dans une forêt et normalement t'as pas le droit, mais des fois ça leur appartient un petit bout de la forêt donc ils ont le droit.
Utilisé pour survivre, mais on peut pas être le propriétaire, c'est à tout le monde.
La nature appartient un petit peu aux animaux aussi parce qu'ils se nourrissent des plantes, des fruits qui sont dans la nature.
Ça fait partie de la chaîne alimentaire, parce que le petit animal, il a forcément mangé un petit animal lui aussi. Alors après, c'est à nous de le manger.
C'est un peu aux humains, mais un tout petit peu, parce qu'ils ont le droit de les chasser, mais après, voilà, après il y a des limites pour les chasser. Par exemple, il y en a qui sont en voie de disparition, donc on n'a pas le droit de les tuer.
Comme les ours blancs, il n'y en a pas assez.
Mais on ne peut pas non plus tuer tout le monde, puisque après on pourrait plus se nourrir. Donc on tue que ceux qui sont en surpopulation.
Mais si on tue tous les moutons ou tous les, par exemple, les sangliers, après tous les animaux carnivores, ils ne vont plus pouvoir se nourrir, donc ils vont mourir aussi. Donc il ne faut pas trop les tuer, les animaux.
Les loups, nous, on les mange pas, mais ils ont quand même un droit de vivre. Alors il faut bien leur laisser quelques moutons, parce que sinon, on les fait mourir. Et c'est comme nous, si les sangliers, ils se mettaient dans quelque chose où on pouvait pas les manger, et ben ils nous feraient mourir. Alors ils ont quand même un droit de vivre.
On pourrait par exemple faire un peu comme une réserve naturelle. On mettrait les loups, on les empêcherait d'aller vers les bergers, mais on leur donnerait des animaux, mais par exemple déjà morts qui sont pas vers les bergers.
Moi, je dirais que on pourrait surveiller des loups et les apprendre à être gentils pour que au moins on les adopte et on leur donne à manger comme si c'était un animal domestique.
Bah en fait, ce qu'on devrait faire, c'est les moutons devraient les protéger. Quelqu'un devrait bien les surveiller tout le temps. Comme ça, dès qu'il y a un loup, et ben on essaye de le faire fuir.
En fait, je crois que c'est bien que les loups mangent les moutons. Parce que s'il n'y aurait pas de loups, il y aurait beaucoup trop de moutons. Et il faudrait qu'il y ait plus de bergers après. Alors c'est bien que les loups mangent les moutons, parce que après, comme ça, il n'y en a pas des centaines. C'est un peu comme si les carnivores disparaissaient, il y aurait trop d'herbivores après. Et après, il y aurait beaucoup moins de plantes ou de feuilles.
Parce que tout le monde a voulu dire que la nature, elle appartient à tout le monde, puisque tout le monde en a un petit peu besoin pour survivre. Sans elle, on ne peut pas continuer.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O. Elle a trouvé beaucoup de choses, elle a trouvé beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais pas de l'eau. Oh H2O. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O. Elle a trouvé du détergent, elle a trouvé du détergent.
Elle a trouvé du détergent,
du détergent. Beaucoup de choses,
mais pas de l'eau.
Oh H2O. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O. Elle a trouvé un pétrolier, elle a trouvé un pétrolier.
Elle a trouvé un pétrolier.
Un pétrolier.
Du détergent.
Beaucoup de choses,
mais pas de l'eau.
Oh H2O. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O. Elle a trouvé du DDT, elle a trouvé du DDT. Du DDT.
Un pétrolier.
Du détergent.
Beaucoup de choses,
mais pas de l'eau.
Oh H2O.
La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. La baleine bleue cherche de l'eau pour déboucher tous ses tuyaux. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O. Oh oh oh, oh H2O.
H2O, H2O, encore des mots d'humains pour catégoriser, cadrer, encadrer, décrire, définir cette fameuse nature avec laquelle l'homme agit, réagit, échange, arrange, dessus, dessous, à droite, à gauche, d'est en ouest. Mais au fond, à qui appartient la nature? À nous, humains? Tous les humains? Et quels humains? Ou peut-être à notre baleine bleue? Daniel Petit, biogéographe, c'est à vous que je confie cette question tumultueuse qui déchaîne les vagues fougueuses d'un océan de débats, n'est-ce pas?
Oui, en effet, c'est pas une question facile, et cette question, elle a suscité de grands débats, et elle suscite toujours d'ailleurs de très très grands débats parmi les scientifiques, les économistes, les hommes politiques, et on va essayer de répondre un peu à la question du dernier enfant, là, c'est, est-ce que la nature appartient à tout le monde? C'est une question assez intéressante.
Alors, donc poser la question de savoir à qui appartient la nature, n'est-ce pas aussi s'interroger sur la question de notre utilisation de la nature?
Alors oui, c'est la première interrogation qu'on peut se poser, et pour certaines personnes, la nature a été donnée aux hommes pour en faire usage, selon leurs besoins. C'est une vieille idée, et selon ces considérations, elle aurait été donnée soit par un dieu, ou différents dieux, dieu du soleil, dieu des animaux, dieu de la forêt, en fonction de différentes croyances qui ont eu lieu sur la Terre à travers l'histoire de l'humanité. Et puis d'autres, qui ne sont pas totalement très religieux, considèrent simplement que la nature, ben, elle était simplement qu'elle préexistait aux hommes. Alors, ce constat, le constat que l'on peut faire, c'est qu'effectivement, les hommes, au début de leur arrivée sur Terre, ont tiré de la nature leur premier moyen de vivre et de survivre même, en fait. Et que l'humanité, au fil de son histoire, a puisé ses ressources dans la nature. Et encore aujourd'hui, elle continue à le faire en puisant, pour la plupart des moyens de son économie, dans la nature. Ce que l'on peut dire, c'est qu'au moins, c'est que la nature a été et a une richesse première, de l'humanité. Elle existait bien avant que les hommes apparaissent et ils l'ont utilisée pour leur développement.
La nature serait donc un patrimoine ?
Oui, c'est ça. La nature est un patrimoine que nous, humains, avons hérité à nos origines. Elle était là avant que l'humanité soit sur la Terre. Et nous nous trouvons un peu comme une famille, par exemple, qui a reçu des biens en héritage, cette nature, quand on est arrivé, avec, par exemple, si on prend l'exemple d'une famille qui aurait hérité d'une ferme avec des bâtiments, des tracteurs, des machines pour faire tourner la ferme, des vergers, des champs, des poules, des cochons, etc. Et donc, il apparaît alors évident que nous devons transmettre ce patrimoine, cette ferme, qui serait la nature, si vous voulez, à ceux qui vont nous succéder, et que cette ferme, elle soit en bon état, cette nature soit en bon état de fonctionnement. Sinon, les générations futures, elles ne pourraient pas vivre avec. Donc c'est en ce terme-là qu'on parle de patrimoine, c'est-à-dire quelque chose dont on a hérité et qui doit être transmis aux générations, de génération en génération.
On entend de plus en plus parler de patrimoine commun de l'humanité, donc qui appartiendrait à tous. Pourquoi cette idée ?
Alors oui, c'est l'idée que donnait l'enfant là tout à l'heure, en dernier, c'est la nature appartient à tous. Alors pourquoi cette idée ? Eh bien, d'abord, c'est qu'on s'est aperçu que depuis longtemps, et puis surtout en écologie récemment, que tous les éléments de la nature sont dépendants les uns des autres. Il n'est pas pensable de voir les animaux vivre sans les plantes et sans d'autres animaux pour manger. Ils ont besoin de l'air pour respirer, ils ont besoin de l'eau pour boire. Les plantes, elles ont besoin d'eau, du sol pour pousser. Donc, le sol, il est fabriqué par des milliers de petits animaux microscopiques qui transforment toutes les matières organiques.
C'est un peu comme une grande chaîne, quoi. Si on vole un maillon, c'est toute la chaîne qui est rompue.
Voilà, la chaîne ne peut plus fonctionner. Donc, en fait, la nature, c'est quelque chose d'extrêmement complexe, finalement, où tous les éléments sont liés comme dans une chaîne, mais une grande chaîne, quoi, multiple, où tous les éléments sont liés les uns aux autres et on ne peut pas la découper en morceaux. Et on ne peut pas, si on la découpe en morceaux, la nature, donner un morceau à une entreprise, un autre morceau à un pays, un autre morceau à quelqu'un, c'est impensable. Imaginons que l'histoire des hommes et des sociétés qui évoluent, qui changent, etc., qu'on attribue des morceaux de nature soit à un État, puis que cet État tombe en faillite, ou à une entreprise qui tombe en faillite, qu'elle revende ce morceau de nature à une autre entreprise ou à un autre État, que les États se font des guerres et que les morceaux de nature, on ne sait pas où ils vont aller. Donc on comprend bien que découper la nature en petits morceaux et l'attribuer à des gens ou à des entreprises, il y a un problème, quoi. C'est difficile à envisager. C'est un peu comme si la ferme qu'on avait reçue en héritage, elle était divisée en différents propriétaires, par exemple. Les uns auraient les bâtiments, d'autres auraient les tracteurs, l'autre ils auraient les vergers, d'autres les champs, puis d'autres encore les poules, puis d'autres les cochons, etc. Donc on comprend bien que comme ça, la ferme, ça ne serait plus une ferme, elle ne pourrait plus fonctionner, quoi. Donc on comprend que l'intérêt général de toute l'humanité, comme l'intérêt général de la famille qui avait hérité de cette ferme, ça soit de conserver et de maintenir dans son intégralité comme elle est, pour qu'elle puisse fonctionner. Donc voilà un peu les bases de l'idée qu'on est arrivé à définir la nature comme un patrimoine commun de l'humanité, commun parce qu'il est impensable de le séparer en petits morceaux et que chaque morceau appartient à des personnes différentes.
Alors cette idée de patrimoine commun, elle est bien généreuse, on est bien d'accord. Mais apparemment, ça ne permet pas de stopper le pillage généralisé de la nature par les plus puissants. Non ?
Oui, c'est exact. Vous avez raison. C'est d'ailleurs à quoi on assiste un petit peu dans différentes parties du monde. Et récemment, donc dans les années 90, en 1992, il y a eu la convention de Rio, qui est une fameuse convention de protection. C'est la première, c'est la plus importante de protection de la nature, disons de la biodiversité, plus exactement, et qui posait comme patrimoine naturel, comme patrimoine commun de l'humanité, l'ensemble de la nature, enfin de la biodiversité. Et à cette époque-là, plusieurs États ont refusé cette conception. Et ce sont surtout, justement, comme vous le soulignez, les petits pays, notamment les pays pauvres africains, qui ont refusé de cette conception de la nature comme patrimoine commun de l'humanité, parce qu'ils avaient peur que les grandes entreprises viennent chez eux, si c'était à tout le monde la nature, viennent chez eux spolier et prendre tous les biens, toutes les plantes intéressantes pour l'humanité, les emporter. Donc tous ces États pauvres, les petits États africains, ont refusé d'avoir cette conception comme la nature comme patrimoine commun de l'humanité. Et d'ailleurs, c'est ainsi que l'idée de nature patrimoine commun était un petit peu bouleversée. Et ces États ont milité pour qu'on retire dans la Convention de Rio cette idée de patrimoine commun. Et c'est pour cela que maintenant que la Convention, dans son texte final, a adopté que la sauvegarde finalement de la biodiversité, donc en fait la partie vivante de la nature, incombe aux États. C'est-à-dire que chaque État...
Donc au pays, hein.
Voilà,
si,
au pays.
Si j'explique, oui.
C'est ça, au pays. Donc on était passé de l'idée généreuse de bien commun à toute l'humanité à bien commun dans chaque pays. Mais là, à ce moment-là, beaucoup d'économistes et d'hommes politiques qui avaient étudié ces problématiques-là qui existent depuis très longtemps ont alerté un petit peu les hommes politiques en disant « Mais attention, si vous faites l'idée de bien commun, induit inévitablement ce qu'on appelle en économie la tragédie des biens communs. »
Alors c'est quoi ça, la tragédie des biens communs ?
Alors la tragédie des communs, c'est quelque chose d'un peu compliqué. C'est lorsque des biens communs, lorsqu'on est dans une situation où on déclare que des biens, par exemple un étang, une forêt, des pâturages, sont en accès libre à un très très grand nombre de personnes, l'intérêt de chaque utilisateur du bien commun, c'est d'augmenter le plus possible ce qu'il peut retirer du bien. Parce qu'il est en concurrence avec les autres. Donc son intérêt, c'est d'en prendre le plus possible, le plus vite possible. Et c'est l'exemple du gâteau à partager, par exemple. S'il n'y a pas de règle de partage ou s'il n'y a personne pour veiller à ce que le partage soit équitable...
Ah ben ça, les enfants savent bien.
Voilà, j'imagine. C'est le plus fort ou le plus habile ou le plus malin qui va récupérer
le plus gros.
Voilà, exactement. Bon, ben c'est un peu pareil, c'est ça la tragédie des biens communs. Donc en fait, finalement, il arrive qu'en l'absence d'une réglementation, d'un État, d'un gouvernement, d'un pays qui puisse veiller à ce que les répartitions soient honnêtes, si vous voulez, équitables, et bien finalement, le bien s'épuise et il finit par disparaître. On assiste de nos jours d'une façon impuissante à ce phénomène, par exemple avec la ressource des poissons en mer. Il n'y a pas de propriétaire, il n'y a pas de responsable pour les mers du monde. Je parle des mers qui sont en dehors des États, de la bordure qui correspond aux États. Dans les mers internationales, il n'y a personne qui puisse vraiment actuellement contrôler ce qui se passe. Et donc, en l'absence d'une réglementation mondialement reconnue, il y a des réglementations, mais elles ne sont pas reconnues par tous les pays, eh bien, les pêcheurs les plus puissants, c'est-à-dire les entreprises, les bateaux les plus gros, qui ont des plus gros matériels, épuisent petit à petit le stock de poissons dans les océans. Et actuellement, on a une grande tragédie, justement, des biens communs de l'océan, c'est que de moins en moins de poissons.
Moins de thon, hein, par
moins
exemple.
Moins de thon, par exemple. Et puis, c'est tous les poissons. Il y a un gros problème parce que ce sont les bateaux les plus puissants qui prennent le plus de poissons. Voilà, c'est ça la tragédie des biens communs.
Finalement, cette idée généreuse, elle amène à... contradiction.
Elle amène à une contradiction, voilà. Alors, à un moment donné, pour essayer de contourner cette contradiction, hein, ce problème, on s'est mis à réfléchir sur d'autres pistes. On s'est dit, mais à ce moment-là, si on ne peut pas contrôler la nature, parce que les États, finalement, c'est un peu difficile, et si on la met en patrimoine commun, on voit très bien qu'on va à l'impasse. Donc on s'est dit, ben voilà, on voit très bien que les entreprises, elles peuvent protéger leurs biens, et elles le gèrent en général bien parce que c'est leur intérêt à elles de le bien gérer. Pourquoi ne pas privatiser, de mettre la nature aux mains des entreprises privées, hein, puisqu'elles gèrent bien leurs biens, elles en font attention, on n'a qu'à faire pareil.
Ce qu'on appelle privatiser.
C'est ce qu'on appelle privatiser la nature. Donc il y a un courant de pensée parmi les économistes qui disent pour sauvegarder la nature, la meilleure des choses à faire, c'est de la privatiser, c'est de la confier à des entreprises privées qui, comme ça va être leur intérêt, elles vont le protéger. Mais on s'est aperçu que depuis, disons, 30-40 ans, que tout ça, les entreprises privées, lorsqu'il y avait des gros accidents dans la nature, comme les marées noires, les accidents industriels, mais finalement, elles se défaussaient de leurs responsabilités. Et que les entreprises, elles faisaient un petit peu comme la tragédie des biens communs. Lorsqu'il y a une ressource à prendre, une mine d'aluminium ou du pétrole à prendre, elles prennent tout le plus vite possible pour l'exploiter et en faire de l'argent le plus vite possible. Donc finalement, les entreprises gardiennes de la nature, c'est pas une idée... qui a fait long feu, quoi.
Non, en effet.
Et actuellement, on est en train de revenir à l'idée de ce qui avait été écrit dans les textes de la Convention de Rio de Janeiro en 1992, c'est-à-dire ce sont la nature dans les États, ce sont les États qui sont responsables de leur nature chez eux. Mais ce n'est pas une solution bien, bien acceptable parce que est-ce qu'on peut faire confiance aux États pour attaquer en justice, par exemple, les auteurs des catastrophes ? on a bien vu que lorsqu'il y avait toutes les marées noires, les grands comme l'Erika, tout ça, encore l'Erika, on a pu, encore, c'est le premier on a pu faire entrer en procédure, mais plein d'autres catastrophes naturelles comme celle-ci, on n'a pas pu, les États ne se sont pas du tout bougés pour provoquer, par exemple, des multinationales comme Total ou comme ExxonMobil, de les provoquer en justice et pour avoir des dommages et intérêts. Donc ça pose un problème quand même de confier la responsabilité de la nature aux seuls États aussi.
Donc finalement, on se trouve face à une impasse. D'un côté, si la nature est un bien commun de l'humanité et qu'elle appartient à tous, on se trouve confronté au problème des pilleurs. Et de l'autre côté, vous dites que si elle appartient à des personnes privées, celles-ci fuient leurs responsabilités en cas d'accident, par exemple.
Et oui, on est vraiment en face devant une grande difficulté, des grands paradoxes. Il est loin de moi de proposer des solutions définitives, car même les grands politiques au niveau international et mondial, on n'a pas encore pour l'instant trouvé une solution valable. Il y a des pistes. Alors la première piste que l'on peut reconnaître, la nécessité d'une entité, c'est-à-dire d'une organisation au-dessus des parties prenantes, c'est-à-dire au-dessus des entreprises privées qui, elles, ne font pas leur boulot, finalement, fuient leurs responsabilités, et au-dessus des États pour éviter la tragédie des biens communs, comme on a vu tout à l'heure. Donc il y a un besoin d'avoir une organisation qui soit à un niveau supérieur aux États et supérieur aux entreprises. Par exemple, si on prend l'exemple des pêcheries de la pêche, eh bien, la presque totalité des entreprises constitue une menace de surpêche parce qu'elles travaillent dans des eaux internationales en dehors de l'action des États. Donc les États ne peuvent pas intervenir. Donc on comprend bien la nécessité de quelque chose qui soit au-dessus des États. Donc aujourd'hui, les réflexions d'une organisation au-dessus des États, c'est certainement au niveau de ce qu'on appelle l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, où il pourrait y avoir quelque chose qui existe en ce sens-là, quoi. Mais par contre, cette organisation, elle ne serait pas propriétaire de la nature. Elle ne serait que responsable vis-à-vis de l'humanité que l'utilisation, les usages que l'on fait de la nature soient ce qu'on appelle maintenant respectueux, c'est-à-dire qu'il y ait une utilisation raisonnable des ressources pour ne pas les épuiser, pour ne pas tomber dans la tragédie des biens communs. Donc ça nécessite un système économique où on puisse d'un côté inciter les utilisateurs à intégrer dans le budget des entreprises, par exemple, ce que représente le coût de la nature, c'est-à-dire les services rendus par la nature. Quand on achète quelque chose, la nature, on ne la paye pas, la nature. Elle ne coûte rien.
Donc là, ce serait presque donner un salaire à la nature.
Oui, c'est ça, ça serait donner un salaire à la nature, c'est-à-dire intégrer dans les budgets des entreprises, dans les coûts des entreprises, ce que coûte à la nature de refabriquer, par exemple, des sols, de refabriquer des animaux, de refabriquer des plantes, de refabriquer de l'air, de refabriquer de l'eau. Tout ça, on ne lui paye pas à la nature.
Ben non.
Et donc, pour l'instant, on le prend sans que ça coûte. Mm-hmm. Donc, il faudrait un système économique qui incite à prendre en compte ce coût-là, si
d'accord.
Vous voulez. Ça, c'est une première chemin. Et deuxième voie, ça serait, cette organisation aurait comme rôle de pénaliser les entreprises ou les utilisateurs ou les États qui feraient un abus de la nature, c'est-à-dire qui abuseraient, qui épuiseraient des ressources, donc les pénaliser par des taxes, par des systèmes, mais pour éviter qu'il y ait un abus de prélèvement des choses sur la nature.
Une sorte de police de la nature qui mettrait des amendes aux gens.
Oui, une police, c'est un mot un peu fort, j'irai pas jusqu'au mot police, mais je dirais une organisation à l'échelle mondiale qui puisse conduire à une concertation entre les différentes parties prenantes, c'est-à-dire les États, les grandes entreprises internationales, pour prendre en compte les besoins de la nature pour qu'elle puisse perdurer, qu'elle puisse se renouveler.
En somme, si nous vous comprenons bien, Daniel Petit, est-il possible que l'humanité puisse continuer sa route à l'hypergéant supermarché de la nature, paré de son hypergéant supercaddie qui roulerait sans vergogne le long de rayons d'océan en conserve, de champs en bocaux, de soleil en sachets surgelés, de violettes en dosettes et d'arbres sous éprouvettes ? Thank you.
L'arbre va tomber, les branches salissaient les murs. Et rien ne doit rester, le monsieur veut garer sa voiture. Nous, on l'avait griffé, juste pour mettre des flèches et des cœurs. L'arbre va tomber, le monde regarde ailleurs. L'arbre va tomber, ça fera de la place au carrefour. L'homme est décidé, et l'homme est le plus fort, toujours. Ouh, c'est pas compliqué, ça va pas lui prendre longtemps. Tout faire dégringoler, l'arbre avec les oiseaux dedans. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient, et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber, l'homme veut mesurer sa force. Et l'homme est décidé, la lame est déjà sur l'écorce. Et tellement qui s'y abritent encore. Toujours sur nous penchés quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors. L'arbre va tomber, on se le partage déjà. Y'a rien à regretter, c'était juste un morceau de bois. Ouh, un bout de forêt, avancer trop près des maisons. Et pendant qu'on parlait, l'arbre est tombé pour de bon. Il y avait pourtant tellement de gens qui s'y abritaient. Ces nuits d'hiver quand les averses tombaient, oh, t'as dû en voir passer des cortèges de paumés, des orages, des météores. Et toutes ces nuits d'hiver quand les averses tombaient, une vie d'arbre a couché dehors.
Une vie d'arbre à coucher dehors. Ah bien d'accord, cher monsieur Cabrel. Merveilleuse nuit d'été sous mon duvet, dans ma cabane qui penche entre branches et feuillages, la tête en voyage et les pieds dans le vent. Matelas un peu dur, bien sûr, des courbatures le lendemain. Oui, pour sûr. Mais quelle vraie nuit de naufragé dans cet arbre envolé. D'ailleurs, à propos de naufragé, voici l'histoire passionnante digne d'une nuit d'été au perché. Le naufragé du rond-point. L'arbre-là aperçut de loin celle-là, avec sa grosse fumée noire. Depuis le temps qu'il était au milieu de ce rond-point, il n'avait jamais vu une voiture fumer autant. Pourtant, il en avait regardé passer des autos, des camions, des motos, des 4x4, aux vitres teintées, des breaks surchargés, le jour des départs en vacances. Mais jamais, jamais, une voiture avec une grosse fumée noire comme ça. Évidemment, il fallait s'y attendre. Quand elle s'est engagée sur le rond-point, elle a eu un drôle de sursaut et dans un épouvantable bruit de ferraille, elle s'est arrêtée là, au pied de l'arbre. Le conducteur, M. Labrosse, en est descendu en pestant. Il a ouvert le capot pour regarder le moteur d'un air perplexe. Il a fait semblant de tripatouiller quelque chose, mais l'arbre a bien vu qu'il n'y connaissait rien. Le bonhomme n'avait pas l'air content. Il marmonnait qu'il allait être en retard au bureau. Il décida de traverser pour aller chercher un garagiste. Avec toute cette circulation, c'était vraiment une mauvaise idée. L'arbre aurait aimé le prévenir, mais Monsieur Labrosse avait des bons réflexes. Il réussit à éviter la camionnette rouge à temps et d'un bond en arrière, il se retrouva le cœur battant dans la poitrine et les fesses sur le gazon. Il fit encore quelques tentatives, mais l'arbre voyait bien qu'il n'y croyait plus. Il finit par renoncer et s'assit contre le tronc. L'arbre était content, ça lui faisait un peu de compagnie, depuis le temps que personne ne venait plus le voir. Avant qu'on ne construise toutes ces routes, ces rocades, ces autoroutes, il n'était pas si seul. Les promeneurs profitaient de son ombre en début d'après-midi, quelques-uns s'endormaient pour une petite sieste. Les amoureux se donnaient rendez-vous, ici pour graver leur prénom sur son tronc. Ça le chatouillait un peu, mais elle faisait comme si de rien n'était. Avant, c'était la campagne, des prairies, des champs, des forêts. Et puis, la petite ville d'à côté avait grandi, grandi, grandi. On avait déroulé des kilomètres de route et construit des immeubles. Et un jour, l'arbre s'était retrouvé tout seul, au beau milieu d'un rond-point, à regarder passer les voitures. Il observait M. Labrosse qui tournait autour du tronc en marmonnant. « Si je ne peux pas passer tout de suite, je traverserai tout à l'heure, pendant la pause du déjeuner. Les camions auront fini leur livraison et les autos seront certainement moins nombreuses. » Quand midi sonna, le flot de voitures avait bien diminué. Mais les chauffeurs pressés en profitaient pour gagner quelques minutes. Ils abordaient le rond-point dans un grand crissement de pneus et d'un coup de volant reprenaient leur route. L'arbre observa amusé les quelques tentatives bien vite abandonnées de M. Labrosse. Pour un chêne qui s'ennuyait ferme la plupart du temps, un peu de distraction était toujours la bienvenue. Le conducteur essaya encore de s'échapper plusieurs fois dans l'après-midi, guettant un trou entre deux véhicules. Il aurait presque pu réussir si un gros coupé de sport n'avait pas surgi tout klaxon hurlant, l'obligeant à regagner son refuge. L'arbre l'écoutait pester entre ses dents contre tous ces chauffards qui se croient seuls sur la route. En fin de journée, il renonça à s'échapper. La fermeture des bureaux lâchant des hordes de voitures sur le chemin du retour. La nuit tomba et les phares blancs des voitures balayaient le rond-point. Arthur Labrosse comprit qu'il serait encore plus dangereux de franchir la route dans l'obscurité. L'arbre le sentit se blottir entre ses racines pour s'endormir et cela lui fit du bien. Il secoua doucement ses branches et laissa tomber quelques feuilles mortes en guise de couverture. Au lever du jour, en regardant le conducteur encore assoupi contre son tronc, son cœur de bois se serra. Il se souvenait du jour où il s'était retrouvé, lui aussi prisonnier, condamné à compter les voitures qui passaient. Il pensa aux autoroutes qui s'entremêlaient, aux bretelles d'accès, aux parkings et aux centres commerciaux qui avaient poussé à la place des forêts et des champs. Il se dit que décidément ce monde-là n'était plus fait pour les arbres, à moins de rester là, planté, à respirer les gaz d'échappement. Il était fait pour les hommes qui tournaient autour des ronds-points. L'arbre poussa un soupir, regarda une dernière fois le ciel et se mit à tirer sur ses racines de toutes ses forces de vieil arbre qui n'a plus sa place ici. Il s'arc-bouta et tira, tira, tira. Il sentit son corps qui s'arrachait de terre et, dans un grand soupir, l'arbre s'abattit sur la chaussée. Monsieur Labrosse, réveillé en sursaut, n'en crut pas ses yeux. L'arbre était couché en travers de la route, bloquant la circulation. Les voitures avaient freiné dans un fracas de tôles froissées, de gros mots et de klaxons, et bientôt c'est toute la ville qui se retrouvait paralysée dans un gigantesque embouteillage. Il en a profité pour filer. En passant, il a caressé le tronc de l'arbre et il a senti quelque chose rouler sous son pied. Il s'est arrêté, l'a ramassé et l'a mis dans sa poche. Puis, il est parti. Au bureau, on n'a jamais revu Monsieur Labrosse. Il paraît qu'il fait pousser des arbres quelque part à la campagne. Et voilà, c'était Le naufragé du rond-point, une histoire écrite par Jean-François Dumont aux éditions du Père Castor. Petite graine buissonnière, c'est sur cette note printanière que je vous laisse le soin d'habiter notre terre, non comme des propriétaires aveuglés, mais comme des locataires avisés, responsables et pleins d'idées graminées dans les poches. Bonne pioche, les amis, portez-vous bien, et à bientôt, promis, juré, craché, sur les oreilles buissonnières. Merci à Daniel Petit, biogéographe, Raphaël Terribilé à la console aujourd'hui, Silver Petit au montage, et moi-même, Donatienne Rang. Je vous dis à bientôt.